RMC.
Ah, il est prêt à flamber la baraque. Hein.
7h-8h.
Votre maison.
Tant mieux. Cette grande baraque inchauffable, merci.
François Sorel.
Des granulés. Non, c'est très gentil.
Ah, si, prenez-les tout de suite, sinon vous oublierez.
Christian Tessé.
Et c'est vrai que les granulés ont plusieurs significations et plusieurs, comment dirais-je, actions.
N'est-ce pas, bien sûr.
Ça peut soigner.
Oui, ça peut peut-être nourrir les chiens aussi.
Les granulés, oui, tout à fait.
Les chats.
Pourquoi pas aussi. Comment va votre chat?
Eh bien, mon nouveau chat, Émile, est tout à fait adorable. J'avais promis, j'ai mis sa photo sur,
tout à fait, je l'ai
sur
vu.
La page Facebook.
Il est tout rouquinou, il est tout joli.
Oui, il est un peu timide.
Il est un peu timide. Oui. Bah, il est un peu comme vous, il n'aime pas trop les flashs.
Il est très réservé.
Vous lui avez souhaité une bonne année, j'espère.
Bah, évidemment.
Bon,
évidemment.
Bonne année, Émile. Christian, il est temps de retrouver notre dossier de ce samedi matin. On va parler de chauffage au granulé.
On va parler de chauffage au granulé. C'est une énergie, c'est une forme de combustible qui est apparue il y a quelques dizaines d'années maintenant et qui prend de plus en plus d'importance sur le marché. Nous avons avec nous en ligne Éric Vial, qui est délégué général de Propelet. Bonjour, monsieur Vial.
Bonjour, Christian.
Bonjour.
Bien,
bonjour aussi, pardon.
votre structure, c'est l'Association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Alors pourquoi ça s'appelle Propelet, si c'est du granulé?
C'est les pros du pelet, on va dire.
D'accord.
On est une structure qui regroupe l'ensemble des métiers qui touchent au chauffage au granulé de bois.
D'accord, parce que le pelet, il y a une différence entre pelet et granulé?
Non, c'est pelet, c'est la version anglophone du mot granulé, en fait.
Ah, donc d'accord.
On parle des deux de manière courante.
D'accord. Alors moi, la première question que je vais vous poser, c'est le granulé, c'est quoi? Parce qu'on en a vu, peut-être que des auditeurs n'en ont même peut-être jamais vu. Vous pouvez me donner une définition, une description de ce que c'est qu'un granulé?
Oui, alors très simplement, c'est un petit cylindre de sciure compressée qu'on va voir maintenant un peu de partout dans les commerces grande distribution comme tu es spécialisé.
D'accord, alors ce petit cylindre, il est constitué de quoi? Il y a des additifs, il y a de la colle dedans, il y a quoi pour que ça soit compact comme ça?
En fait, c'est le mode de fabrication qui fait qu'il se tient tout seul. C'est la pression qui est exercée lors de la production qui va faire qu'avec la lignine du bois, eh bien, il va rester collé.
D'accord.
Donc, c'est un produit qui est 100% naturel, 100% bois.
Donc, il n'y a pas d'additif pour agglomérer, en fait, ces granulés, c'est ça?
Alors, d'une manière générale, on va dire en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'additif. Il y a quelques usines qui utilisent des additifs. La norme impose maximum 2% d'additifs. Et les additifs, c'est souvent de l'amidon de maïs parce que c'est ce qui va le mieux et le moins cher pour faire du pour compacter le granulé.
Donc c'est de la sciure.
Et en France, encore une fois, ouais.
C'est de la sciure. Et elle vient d'où, cette sciure? C'est du bois qu'on transforme en sciure ou ça vient d'où?
Alors, on va dire à pratiquement 100%, 95%, c'est de la sciure ou des plaquettes qui sont rebroyées en sciure, qui sont issues de l'industrie du bois, comme essentiellement, on va dire, le sillage, voire le rabotage.
D'accord. Donc, ce n'est pas du bois de récupération, jamais?
Non, ça peut pas être du bois de récupération. La norme, entre guillemets, l'interdit parce qu'il faut que ça soit du bois, comme on dit, vierge.
Voilà,
du bois issu de première transformation du bois.
Moi, je vais vous dire, je trouve que c'est très bien parce que je ne cesse de, non pas de dénoncer, mais d'évoquer le fait que, par exemple, dans les isolants, on vous met des isolants à base de bois, mais c'est souvent de la récupération, aussi bien de volets qui ont été peints, vernis, alors que là, c'est pas le cas.
Non, là, c'est pas le cas.
D'accord. Alors, on dit qu'il y a un rendement extrêmement élevé par rapport à la bûche. C'est quoi comme rendement? Alors, vous me direz que ça dépend des appareils, mais c'est quoi comme rendement? Et pourquoi il y a un si bon rendement du granulé?
Alors, les rendements, on va dire, sur un poêle, on va être au-delà de 85%, et sur une chaudière, on monte à au-delà de 100%. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est lié à la condensation de l'appareil.
Ouais.
Après, pourquoi le rendement est si élevé? Bah, premièrement, parce que le granulé, c'est un bois qui est, du fait de la compression, est très dense. C'est plus dense que du bois naturel, entre guillemets.
Ah, et c'est la densité.
Et puis, voilà, la densité, mais aussi, et vous me posez la question par rapport à la bûche, la différence, c'est que l'appareil de combustion, il va gérer automatiquement à la fois les entrées d'air et les quantités de combustible nécessaires. Et de ce fait, il va vraiment optimiser à fond la combustion et donc apporter un rendement très important.
Oui, alors bah, vous me faites une transition directe, c'est les appareils. Alors, oui. Quels sont les appareils dans lesquels on peut brûler du granulé?
Alors, il faut que ça soit un appareil dédié au granulé. Oui. On ne va pas pouvoir mettre du granulé dans un appareil à bûche. Alors, techniquement, on peut, mais ça n'a pas d'intérêt. Et on n'aura pas les avantages du granulé en faisant ça. Donc, c'est un appareil dédié au granulé. Et après, bah, tous les types d'appareils, que ce soit poêle, chaudière, insert, cuisinière à bois, d'appartements qui sont équipés spécifiquement pour le granulé, c'est des appareils qui fonctionnent au granulé.
D'accord, ça veut dire qu'il y a une part notamment d'électronique qui va gérer, suivant, comme vous le disiez, la nécessité d'amener ouais. de l'air, etc., c'est ça?
Oui, tout à fait, oui.
Mais alors, le granulé lui-même, il doit avoir des caractéristiques précises, mais par exemple, en matière, quand on brûle quelque chose qui est à base de bois, on parle immédiatement de séchage. Alors, est-ce que le taux d'humidité du granulé est forcément, un, à l'origine donné, précisément en termes de normes, et est-ce qu'ensuite, il ne peut pas se charger d'humidité quand il est chez vous?
Alors, le de par la norme, le granulé doit être à moins de 10% d'humidité, donc très sec.
Oui.
Et de toute façon, s'il était à plus d'humidité, il serait plus un granulé.
Il se désagrège.
Ah oui. La forme dessus. Non, il désagrège.
Oui.
Et le granulé tel qu'il est stocké chez le particulier ou chez les intermédiaires, il ne reprendra pas l'humidité. Le granulé reprendra peut-être 1%, mais il prend très peu d'humidité. Le seul danger pour lui, c'est le contact avec du liquide. C'est pas l'humidité de l'air qui va avoir une grosse influence sur lui. C'est surtout le liquide. C'est-à-dire qu'en clair, si de la pluie tombe dessus ou s'il est stocké à un endroit où il y a de l'eau qui va toucher, là, il va gonfler comme un pop-corn, quoi.
D'accord. Ouais, ça, voilà. Si on fait du pop-corn dans le poêle, c'est embêtant. Quoi.
Voilà.
Puis il faut pas se tromper parce que ça doit être moins bon que le pop-corn, quand même.
Mais, alors, vous m'avez dit 10%, hein, d'humidité.
Oui, c'est ça? D'humidité, moins de 10%. Oui.
Moins de 10%. Faut rappeler que le bois sec, c'est-à-dire celui qui est en norme de, idéal pour brûler, c'est 20%, hein. Donc, ça veut dire que. Voilà, le bois bûche, c'est 20%. Alors, on comprend effectivement que moins d'humidité, et puis plus de compression, c'est-à-dire moins d'air aussi, il y a moins d'air que dans une bûche. C'est ça qui fait donc le rendement.
Ouais, le rendement est encore une fois l'automatisme de l'appareil qui fait que l'homme n'intervient pas et qui fonctionne en fonction des conditions qu'on lui a demandé d'atteindre et puis des conditions de la pièce ou du.
Oui, bien sûr. Alors j'en profite aussi là par rapport au matériel, c'est que la prévention qu'on peut avoir sur ces matériels sophistiqués, c'est à la fois un problème peut-être d'entretien spécifique et en même temps c'est quand même aussi la problématique qu'il faille de l'électricité en permanence pour que le poêle ou la chaudière fonctionne, mais j'ai cru comprendre que des fabricants avaient trouvé la parade.
Oui, alors déjà, première remarque, il n'y a pas beaucoup d'appareils de chauffage sur le marché qui ne fonctionnent pas avec l'électricité. Et l'électricité, sur les appareils de chauffage, c'est quand même la rançon de l'automatisme du confort.
Oui, d'accord, mais après, j'ai un poêle à bois, il n'a pas besoin d'électricité.
Oui, ça c'est sûr. Après, voilà, tout à fait. Alors là, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a plusieurs constructeurs qui offrent des systèmes intégrés à l'appareil pour, je pense surtout au poêle, pour fonctionner soit en permanence, soit sur une période donnée sans électricité. Et puis, il y en a d'autres qui fournissent une connexion pour pouvoir brancher une batterie ou quelque chose.
Ah d'accord, on met une batterie à ce moment-là. Voilà, s'il y a une panne, on a entendu quand même Madame la ministre Pompidou nous annoncer des coupures de courant pour cet hiver.
Ouais.
Donc, il faut, là, on a intérêt donc à avoir une batterie, parce que sinon, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas là.
Non, ça marche pas. Alors, il y en a certains qui fonctionnent. Il y a de nouveaux modèles maintenant qui existent avec des systèmes qui fonctionnent sans électricité. Mais sans électricité, on n'atteint pas les performances d'un poêle fonctionne à l'électricité.
Alors, question de stockage, puisque vous nous disiez que
c'est la question que j'allais poser, Christian. Ah, vous me devancez, c'est très bien.
Comment on fait parce que il faut qu'il y ait une alimentation permanente, parce que on a aussi la possibilité de remettre des granulés à la main, mais enfin ça.
Oui, remplir un mini réservoir.
Ouais, comment ça fonctionne?
Alors, il faut dissocier deux appareils, le poêle et la chaudière. On va commencer par la chaudière.
Oui.
La chaudière, c'est un appareil qui fonctionne en théorie avec une autonomie d'un an. Donc, on lui adjoint un silo qui va comme une cuve de fioul, on peut dire, qui va servir pour approvisionner le granulé dans la chaudière automatiquement, sans intervention humaine. Le seul contrainte, c'est de faire remplir son silo une fois par an, comme on fait avec du propane ou avec du fioul.
Mais c'est grand. Voilà. C'est de grande taille.
Si vous voulez avoir une autonomie sur une chaudière qui va chauffer une maison de 150 mètres carrés, on va dire, ou même 120 mètres carrés, pour avoir une autonomie d'un an, c'est 3-4 tonnes. Et donc, ça veut dire, ça fait 2 mètres carrés au sol, quoi, à peu près, voire un petit peu moins.
D'accord. Et en hauteur? Et en hauteur, ça fait combien?
En hauteur, c'est 1,50 m à 2 mètres.
2 mètres, ok, d'accord.
Là, c'est la solution idéale qui permet d'avoir le confort maximum, puisqu'on n'a plus à s'occuper de la logistique du granulé. Maintenant, il existe aussi aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, c'est des chaudières avec des silos de taille réduite qui jouxtent l'appareil.
Oui, et qu'on recharge plusieurs fois par an. Donc.
Voilà, on recharge plusieurs fois par an.
Comme on le fait avec une citerne de fioul, hein, ou une citerne de fioul.
Voilà, c'est un peu plus fréquent parce qu'on n'a que 200 à 300 kilos de granulés stockés. Ça permet d'éviter, ça limite l'espace nécessaire, et puis ça permet aussi d'éviter de faire certains ça peut se comprendre, on ne peut pas sortir 800 ou 1000 euros d'un coup sur l'année, ils préfèrent l'étaler, donc ils approvisionnent par petits bouts le granulé dans un petit silo.
Et ça veut dire qu'à chaque recharge, je suis obligé de faire venir quelqu'un ou je peux moi recharger ?
Non. Alors sur le silo de taille importante qui va avoir une autonomie d'un an, c'est un professionnel, oui, qui va venir avec un camion, ce qu'on appelle un camion souffleur, qui va souffler le granulé dans le silo, donc avec un tuyau un peu. On se compare souvent au fioul parce que c'est un peu le même procédé. Mmh. Il y a un silo de stockage et on a un camion citerne qui vient souffler du granulé.
Bien sûr.
Juste pour qu'on termine là-dessus. Donc ça, c'est pour les gros silos, mais pour les petits, donc c'est le particulier qui va recharger,
oui,
c'est ça ?
Avec des sacs, moyen, ouais. Mais là, on a parlé que de la chaudière. Après, vous avez l'autre mode de chauffage, c'est quand même le poêle, qui est quand même en nombre d'appareils le plus important. L'approvisionnement, c'est soit la personne, elle va approvisionner au coup par coup dans les magasins à proximité de chez elle par quelques sacs, voire dizaines de sacs. Soit elle se fait livrer une tonne sur une palette que le livreur va aller mettre au fond du garage de manière propre et le client se sert au fur et à mesure des sacs. Mais là, c'est encore il manipule des sacs par contre.
En termes d'économie, stricto sensu, je vais dire du combustible lui-même. Comment ça se situe par rapport aux autres combustibles?
Alors, par rapport à l'énergie électrique, le granulé au kilowattheure, il est 3 fois moins cher.
Oui.
Par rapport au gaz propane, c'est 2,5 fois moins cher. Par rapport au gaz de ville, c'est 30% moins cher en ce moment, parce qu'il y a quand même des fluctuations régulières des énergies fossiles. Par rapport au fioul, en ce moment, c'est 20% moins cher. Et en gros, c'est 20 à 50% moins cher par rapport au fioul en fonction de la période. Quoi. Il y a un an, ça aurait été 50% moins cher. Là, en ce moment, on est plutôt à 20-25% moins cher.
Et à l'électricité ?
L'électricité, c'est 3 fois moins cher.
3 fois moins cher,
ouais,
d'accord.
Ouais. Donc, on peut dire que c'est quand même... est-ce que c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est la bûche ?
Le bois est l'énergie la moins chère. Le granulé est la plus chère des énergies bois. Mais la bûche est moins chère, encore que tout dépend comment on gère la bûche. C'est-à-dire que on peut toujours trouver des prix très bas, mais il faut toujours faire attention à la qualité aussi sur la bûche. C'est un peu la chose où il faut recommander aux gens
d'être très attentifs. Le prix d'une chaudière, c'est quand même élevé, mais on va parler de MaPrimeRénov', puisque c'est quand même fortement subventionné.
Alors, la chaudière, il faut compter installer, prête à fonctionner, c'est entre 8 000 et 20 000 euros, suivant les cas et suivant les modèles. Sur un poêle, c'est 2 000 à 7 000, grosso modo.
Vous me parlez du prix du matériel.
Je vous parle de l'installation, parce que le prix du matériel, ça va pas aider.
Oui, d'accord.
C'est clair pour le particulier. Ce qu'il faut qu'il sache, c'est moi je commande, on me l'installe, je n'ai plus qu'à m'en servir, ça va me coûter pour un poêle entre 2 000 et 7 000, et sur une chaudière entre 8 000 et 20 000. Ça, c'est l'immense majorité des appareils qui sont là-dedans. Quoi.
D'accord. Et puis, c'est quand même fortement, subventionné, puisque j'ai ma petite Bible. Vous savez, maintenant, j'ai quand même la documentation de 34 pages de MaPrimeRénov'.
Que vous lisez tous les soirs.
Et que je lis tous les soirs. Et j'observe que, en barème bleu, c'est-à-dire pour les moins favorisés, je vois chaudière à granulés entre le forfait MaPrimeRénov et l'estimation du montant des C2E, les fameuses primes énergie, je vois 14 000 euros quand même de subvention pour une chaudière. Et je vois presque 4 000 euros pour un poêle, c'est ça, vous confirmez?
C'est ça, pour les ménages les plus défavorisés, oui, c'est ça.
C'est-à-dire la formule bleue, puisque vous savez qu'il y a des couleurs.
La formule bleue, ça fait que l'équipement peut ne pas coûter grand-chose ou pas coûter d'argent du tout à un ménage très modeste.
En revanche, l'installation n'est pas subventionnée, c'est ça?
Ouais, mais après avec les aides, ça peut rentrer dedans. Et après c'est pour ça qu'on voit fleurir sur le marché des offres à 1 euro ou à zéro euro.
Mais tout le monde a droit à des aides, même si j'ai des revenus, on va dire supérieurs, j'aurai quelque chose quand même ou pas?
Alors si vous êtes parti des 20% des ménages les plus aisés, vous allez avoir beaucoup moins d'aide. En tout cas, il n'y aura pas d'aide MaPrimeRénov, mais vous avez quand même encore, avec le coup de pouce C2E, vous avez encore un peu d'argent qui va vous être fourni. On va avoir sur les poêles à peu près 500 euros et sur les chaudières à peu près 3000 euros.
2737.
Voilà. C'est le prix officiel, c'est la valeur officielle, mais avec les marques arrondissent souvent à 3000, il y a toujours des... il faut compter à peu près 3000 euros.
D'accord. Et là, on n'a pas le droit à d'aide pour l'installation, hein, c'est ce que Christian disait tout à l'heure.
Non.
Si on a des revenus supérieurs, c'est simplement que sur les produits.
Voilà, c'est l'aberration totale, d'abord que l'installation ne soit pas prise en charge, mais aussi c'est le conduit de fumée qui est pas pris en charge. Hein. Alors c'est quand même simplifié par rapport à un poêle à bois.
Simplifié, non, c'est pareil.
On peut passer on peut passer quand même avec des diamètres inférieurs.
Ah oui, en termes de section c'est inférieur, mais par exemple. Quand vous avez un poêle, les poêles par exemple, ce qu'on appelle les poêles étanches, c'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'air de combustion à l'extérieur.
C'est pareil.
C'est un peu plus compliqué parce que c'est un double conduit.
C'est un double conduit.
Dans tous les cas, c'est pour le particulier, ça se ressent pas. C'est le professionnel qui fait.
Mais alors on peut pas marcher en ventouse comme un.
Oui, tout à fait. Poêle et chaudière. Poêle et chaudière peut fonctionner en ventouse.
Voilà. Vous voyez.
Il y a certaines conditions.
Oui, de hauteur,
d'installation qui doivent être respectées quand même.
De voie publique, etc. Mais on peut donc avoir une. Alors là, cette fois, au niveau du conduit, c'est complètement simplifié puisqu'il n'y en a plus. On est bien d'accord.
Il y a quelques centimètres, voilà. Un mètre ou deux.
Ouais. Pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est comme à ce moment-là, comme une chaudière à gaz, à ventouse, qui est simplement donc avec une sortie de même type, donc.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est quand même très intéressant. Beaucoup de travaux, non? Pas spécialement. Il y a rien de particulier.
Sur une chaudière, si généralement on remplace une autre chaudière qu'il y avait en place avant, donc on la met à la place et puis il peut y avoir des changements d'emplacement de ce conduit de sortie de fumée, mais globalement.
Bien sûr. Dernière question pour moi, parce que François peut encore en avoir.
Non, mais après voilà, je crois qu'on a fait le tour sur
les garanties. Les garanties des matériels, c'est garanti combien?
Les garanties sont en fait obligatoires. La loi impose 2 ans de garantie. Et il n'est pas rare de voir, il est même très fréquent de voir, notamment sur les chaudières, des garanties sur le corps de chauffe de l'ordre de 5 ans, voire 7 ans.
Et même obligation donc de révision annuelle pour toutes les chaudières. Pour les poêles aussi, non? C'est étendu ou pas?
Alors, les chaudières, il y a un entretien par un professionnel obligatoire annuellement. Pour les poêles, ce n'est pas obligatoire, mais la filière recommande fortement d'avoir un entretien parce que c'est une garantie de bon fonctionnement et de pas d'embêtement pendant l'année. Quoi.
Voilà, contrat de maintenance, c'est bien.
Merci beaucoup, Eric Vial.
Merci, Eric Vial.
Délégué général de Propélé. Christian, c'est une solution que vous conseillez, le chauffage au granulé. Hein.
C'est une bonne solution. Alors, on n'en a pas parlé, mais pour les poêles à granulé, ne rêvons pas. C'est-à-dire, souvent, on pense qu'un poêle à granulé, on va mettre un poêle à granulé à la maison. Comme c'est très efficace, ça va suffire. Il faut faire attention que la centralité de l'appareil fera que, de toute façon, si vous avez une chambre au bout du couloir, elle sera pas forcément chauffée efficacement. Donc, il y a aussi des systèmes de récupération de chaleur, comme sur les poêles d'ailleurs, comme sur les poêles à bois, ou granulés, mais il faut bien réfléchir à cela. Faut pas imaginer qu'un seul appareil au milieu, ça peut toujours convenir.
Christian, votre coup de cœur dans un instant. Hamza sera avec nous, qui est en projet de construction. Elle aimerait avoir des conseils sur les faîtages de tuiles. Hamza.
Oui.
Et on en parle dans un instant. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.